Bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices des radios Vassivières. Aujourd'hui, on accueille au studio des Royères Léo Lanuit. Autour de table, Jeanne.
Bonjour.
Fab.
Salut.
Coucou Fab. Et Léo Lanuit. Bonjour Léo.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Donc, ces mois-ci, Radio Vassivière a le plaisir de vous faire découvrir Léo Lanuit, autrice, compositrice franco-algérienne, dont l'univers sonore, poétique et délicat tisse des paysages intimes entre rêve et réalité.
Avec une musique façonnée comme on tisse des rêves, empreinte de tendresse, d'intuition et d'un profond respect pour la nature, Léo Lanuit nous invite à plonger dans un imaginaire où textures sensibles, enregistrements de terrain et mélodies pop se mêlent pour explorer l'intime.
Son dernier album, un album déniché par notre cher collègue Fab, n'est-ce pas Fab? Tu nous raconteras ça. Hein,
oui, oui, oui.
Les dons des larmes. Donc, un album sorti en septembre 2025 sur le label Neck & Lewis. Et il a été conçu et enregistré pendant sa grossesse. Et ceci, c'est une véritable offrande poétique à son enfant à naître. Il transforme les cycles des saisons en une métaphore sensible de la naissance, de la vulnérabilité et du renouveau, on peut le dire aussi, tout en laissant percevoir les échos des berceuses kabyles et son enfance, de la mélancolie du chabi algérien, on en parlera aussi du chabi algérien, dans un écran pop délicat. Donc aujourd'hui, on a enregistré des musiques que vous allez avoir l'honneur d'écouter, chers auditeurs, chères auditrices, et l'accepte d'élever un peu plus les voiles de sa démarche artistique, ses inspirations et les émotions qui guident sa musique. Ben, merci à toi d'être ici.
Oui, mais merci à vous surtout. Vraiment, je regarde le plateau et je me sens vraiment très, très honorée d'être là. Je suis très contente. Vraiment, merci beaucoup. Voilà.
On est ravis aussi de t'accueillir et on peut commencer par parler de toi, de la genèse de ton projet, Léo Lanuit.
Oui, c'est vrai. Eh bien, ça n'a pas toujours été Léo Lanuit. En réalité, c'était Léo à la base, quoi. En préparant le projet Le Don des Larmes, j'avais envie de trouver un autre nom d'artiste un peu plus détaillé, parce que Léo, c'est très neutre. Et quand même, j'ai à cœur vraiment de me reconnecter à qui je suis aussi. Donc, je m'appelle Leïla dans la vraie vie. Et c'était important pour moi de relier les deux, que la musique et ma vraie vie soient vraiment connectées. Donc, la nuit, en fait, c'est simplement la traduction de mon prénom de l'arabe au français. Donc, Leïla, ça veut dire le crépuscule ou la nuit. Donc, j'ai mis Léo la nuit. Donc, comme ça, c'est comme un miroir. Il y a Léo et il y a la nuit. Voilà. Et Léo, c'est un alter ego, quoi. Je sais pas. Voilà.
Pour revenir à tes origines, comment est-ce que tu arrives à articuler aussi tes racines franco-algériennes? Tu chantes en arabe, en espagnol, en français, quoi d'autre? J'ai écouté ton album, c'est multiculturel.
Pour le moment, c'est ça, un peu d'anglais, il y a eu de l'anglais.
Anglais aussi, ouais, tout à fait.
Ouais, le papa de mon bébé est anglais aussi, donc il y a un peu de... oui, mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Dans mes précédents projets, j'ai voulu faire beaucoup de variétés françaises. Et là, pour moi, vu que c'était pendant ma grossesse, j'étais en grosse introspection. Et pour moi, c'était super important de me reconnecter à mes racines. Et là, ça fait quelques années, en fait, parce que je suis fille d'immigrée. Donc bon, c'est tout un parcours... Il y a plein de gens d'ailleurs sur les réseaux qui en parlent, donc c'est super, la voix se libère là-dessus. Et donc voilà, c'est super important pour moi de faire un hommage à d'où je viens, et surtout que c'est une culture où la musique est très importante aussi. Voilà, j'ai grandi là-dedans.
Oui, on parlait du chabi algérien, je ne connaissais pas du tout, donc j'ai inquiété un petit peu pour comprendre aussi ses sources, ses inspirations. Ouais. Et donc, chabi, ça veut dire populaire en arabe.
Exactement.
C'est ça?
Exactement, ouais, ouais.
Et donc, c'était né en Alger au début du XXe siècle, et c'est un des genres musicaux les plus populaires d'Algérie. Ouais. Et ce qui m'a le plus, on va dire, interpellée, c'est que cette musique dérive de la musique arabo-andalouse.
Oui, ben oui, voilà.
Ça, c'était beau, donc, cette découverte.
Ouais, tu savais pas. Ouais, ben oui, c'est pour ça que du coup, c'est bien qu'on en parle, c'est pour ça que je chante en espagnol aussi, dans l'album. C'est aussi en hommage à des racines andalouses. Mais aussi, il faut savoir que le Chaabi, c'est... Aussi, il y a du Chaabi marocain qui est très dansant. Et en fait, je dis vraiment, je précise algérien, parce que le Chaabi algérien, c'est vraiment des musiques très mélancoliques. Et la thématique, souvent, c'est l'exil. Et c'est souvent assez triste. Voilà, et moi, c'est des thématiques que je... Enfin, la nostalgie aussi, voilà. C'est des thématiques que j'aborde énormément dans mes musiques, parce que je suis moi-même une grande mélancolique. Je pense que c'est l'héritage que j'ai de cette culture, voilà.
Toi, t'es née en France ?
Ouais, je suis née en France, ouais.
Et comment t'as connu un peu la musique algérienne ? Tes parents, ils écoutaient cette musique-là à la maison ?
Ouais. Bah, je suis née en France de parents algériens immigrés. Vraiment un parcours très, très commun, finalement, parce qu'il y a plein de gens comme ça. Voilà, oui, toute ma famille est en Algérie. Juste mes deux parents sont venus en France pour vivre les études, tout ça. Et oui, donc ils écoutaient, on écoutait énormément de musique. Par exemple, pendant le Ramadan, ou mon père, il écoutait beaucoup, en fait, par Slimane Azem, du coup, des musiques comme ça, où j'ai des souvenirs, où, quand même à table, où on écoute ça, et puis il y a des larmes qui coulent, et voilà, c'est un peu gênant, et en même temps, c'est bien aussi de sortir les larmes. Voilà, ouais, la musique, elle était très présente, mais souvent c'était très triste parce que mes parents, ça les ramenait à d'où ils viennent. Donc moi, j'ai hérité de leur tristesse aussi. J'ai un peu aussi cette espèce d'envie de, à travers ma musique, de guérir ça, je sais pas, de réparer un truc qu'ils ont perdu. Bon, pas vraiment perdu parce qu'en vrai, on y retourne en Algérie et tout, mais voilà, il y a l'exil, quoi. L'exil, c'est dans beaucoup de musique, ouais.
Non, mais c'est bien de comprendre aussi, parce que c'est un lien, du coup, c'est un peu lié à la tristesse dans ton histoire, à la nostalgie. Mais ils chantaient aussi, tes parents, ton père ou ta mère ?
Ouais, ma mère. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que mon père était très... on écoutait beaucoup de musique algérienne. Et ma mère, elle était plus dans un truc de... On écoutait des musiques libanaises, ou warda, ou égyptiennes. En fait, elle avait tout un imaginaire. Enfin, mais comme vraiment, là, c'est vraiment beaucoup de parents immigrés. Hein. Vraiment, je vous jure, c'est des histoires qu'on raconte, que beaucoup de gens se racontent, quoi. Et voilà, donc oui, ma mère, elle chantait plus dans des... Les oh, et c'est des... Je sais pas, un son plus guttural. Les musiques égyptiennes.
Que tu reproduis
et
aussi
d'ailleurs,
en longtemps.
Que je reproduis. Ouais, par moment. Puis même, enfin, je vais aller un peu loin dans la, enfin, je reproduis parfois les pleurs de ma mère. En vrai, c'est marrant. Bon, voilà, c'est pas marrant.
Mais ça fait partie de ton univers.
C'est ça, oui. En fait, je me suis rendu compte. Hein, c'est pas que je l'ai pas fait expressément. Vraiment, je me suis rendu compte après. Même quand je chante, je me dis, oh putain, j'ai l'impression d'entendre ma mère pleurer. Voilà. Bah, c'est fait pour ça, ce projet, en fait. Je crois. Voilà.
C'est intéressant le mélange que ça crée parce que. Du coup, toi, t'es né ici, il y a tout ce mélange, parce qu'on sent comme, on sent qu'on n'écoute pas de la musique algérienne quand on t'écoute. On entend quelqu'un qui est vraiment plongé dans la musique européenne, je dirais même américano-américaine, parce que la musique européenne aujourd'hui, elle est vraiment très influencée par, par la musique anglo-saxonne. Et du coup, ça crée complètement un mélange incroyable qu'on n'arrive pas toujours à identifier. Donc, c'est super ce que tu nous expliques, en fait.
C'est toute la complexité de comment je vis. Genre, j'ai oublié le terme, mais cette transfuge, je crois que c'est ça le terme, en fait, d'être entre plusieurs cultures. Et puis en plus aujourd'hui, comme je rencontre beaucoup d'enfants d'immigrés, donc il y a un truc où en fait, je peux affirmer que mon parcours il est comme ça parce qu'il y a d'autres gens, j'ai des exemples. Donc ça crée un truc un peu hybride, comme ça, voilà.
On parle beaucoup des larmes, de ces dons des larmes. D'où c'est né ce titre, le don du larme ?
Ouais. Eh bien, il est venu au cours d'une conversation que j'ai avec une amie. On se racontait nos rêves un peu. Et en fait, voilà, on se racontait nos rêves. Et puis, au fil de la conversation, ça nous a fait un peu pleurer. Enfin, voilà, c'est sorti. Et en fait, le don des larmes, c'est vraiment pour dire que chaque larme, moi, je la vois comme un... Oui, comme un... Pas forcément comme de la tristesse ou de la joie. Enfin, juste... C'est une manière vraiment d'expulser une émotion ou de passer à autre chose. C'est un cadeau, quoi, je trouve, de pleurer. En fait, c'est... Par exemple, si mon bébé... bon, là, c'est un bébé, donc voilà, mais quand il sera un peu plus grand et qu'il pleurera, et qu'il, peut-être il aura honte de pleurer parce que c'est un garçon, ou je sais pas, des trucs, j'espère qu'il n'y aura plus ça, mais bon, bah, je lui dirais non, non, bah, c'est un cadeau, les pleurs, et c'est comme ça qu'on passe à autre chose aussi, souvent, j'ai l'impression, dans le processus thérapeutique. Voilà.
Et juste pour revenir un peu sur ton parcours, comment tu passes de écouter de la musique avec tes parents, entendre ta mère chanter, à toi te dire « Ah, moi aussi !»
Ah ouais, c'est une vraie question.
Si je faisais un album en plus, enfin, comment est-ce que ça t'est venu comme ça de...
Mais en fait, c'est un peu...
Se mettre toi aussi.
Ouais, mais c'est un peu au hasard, c'est juste que j'ai fait des... Non, bah en fait... Bah après, non, alors c'est pas tant le hasard, parce que j'ai fait le conservatoire et tout, mais c'était très classique et tout, et je pensais pas qu'un jour j'allais vraiment devenir musicienne ou autrice-compositrice. Donc ça s'est stoppé. Puis j'ai fait des études d'art quand même. Je suis restée dans le milieu de l'art. Et dans l'école dans laquelle j'étais, il y avait un studio de musique. Du coup, pour rigoler, juste on y allait avec des amis. On a fait un peu de musique. Et voilà, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Et donc c'est après que je connecte un peu tout et que je crée un narratif, quoi. Mais en réalité, il n'y a pas de logique entre quand je suis petite... et que j'écoute les musiques avec mes parents. Et puis, enfin, quoi que j'aimais bien j'aimais bien créer des pièces, ouais, des spectacles en reproduisant des musiques. Mais ouais, bon, je sais pas. Pour le moment, j'arrive pas trop à créer une logique vraiment entre...
Oui, j'imagine qu'il y en a pas vraiment, mais c'est pour essayer de comprendre le chemin que tu as parcouru.
Ouais, c'est vrai, c'est marrant, ouais. Bon, après, je ne suis pas que autrice-compositrice, quoi. Il y a aussi d'autres choses qui m'animent. Mm-hmm. Donc, en fait, je pense qu'on est plein de choses.
Comment quoi ? Racontez-nous.
Qu'est-ce que tu fais d'autre ?
Oui, j'aime transmettre. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait beaucoup d'ateliers pour les jeunes, publics et tout. J'aime la littérature jeunesse. Donc, j'ai beaucoup été dans ces milieux-là. Faire des ateliers autour de livres, rencontrer des auteurs et des autrices de littérature jeunesse. Enfin, ouais, je fais ça. J'aime écrire. J'aime le cinéma beaucoup aussi. Oui, j'aimerais bien.
De quel côté de la caméra ?
Non, réalisatrice. Ouais. J'aimerais bien réaliser. En fait, j'ai un projet de documentaire. En fait, d'ailleurs, bon, le don des larmes, ça vient aussi venu. Bah, vous allez voir que j'ai un peu une logique pas forcément très... linéaire, quoi. Ouais,
tout se mélange aussi.
Oui, mélange, quoi. Ouais.
C'est normal.
Oui, voilà. Non, mais en fait, le don des larmes, c'est aussi venu en écrivant le scénario d'un documentaire, mais que je ne vais sûrement jamais sortir parce que c'est trop lourd à faire, quoi. Mais qui était, du coup, en rapport avec l'exil, être enfant d'immigré, voilà. Et donc, j'avais écrit plein de petits textes comme ça pour agrémenter le scénario, mais bon.
Et ceci c'est tiré d'une série qui s'appelait Les Dons de l'Arme, d'un moment spécifique dans les documentaires. Ou c'était le titre du documentaire ?
Non, c'était pas le titre du documentaire, c'était L'odeur des fleurs. Bon, voilà. Mais non, c'est oui, d'un moment dans le documentaire, où voilà, il est question des traditions, cette complexité entre d'où je viens, c'est super, c'est magnifique, et en même temps, ça pue, comme je dis, ça pue les traditions, quoi. Ça sent bon la fleur d'oranger, mais ça pue les traditions, voilà, c'est ça le
Tu viens d'où exactement ?
Alger, en gros, je suis née en France, mais donc mes racines sont à Alger, ouais.
Mais parce qu'on parle des berceuses et kabyles aussi.
Et oui.
Donc, ça, c'est spécifique, les kabyles.
Oui, parce qu'en fait, du coup, toute ma famille est kabyle. Enfin, voilà. Quasiment. C'est-à-dire qu'à Alger, maintenant, on va avoir beaucoup de familles kabyles qui ont migré en fait, c'est comme voilà, d'aller de la campagne à la ville, en fait. C'est juste que la Kabylie, c'est les montagnes, c'est la ruralité. Donc, c'est très... c'est pas forcément attirant pour des personnes, des gens qui ont envie de vivre quelque chose de plus, voilà, avec du spectacle, quoi. Enfin, donc oui, bah donc toute ma famille est kabyle, je suis kabyle, du coup, j'ai un héritage kabyle, et donc oui, j'ai été bercée par par Idir notamment. Je sais pas si vous voyez ce que vous avez connu.
Oui, oui, oui.
Est-ce que tu peux quand même préciser qui est Idir?
Idir, c'est un grand chanteur kabyle, vraiment.
C'est une star. Hein.
C'est une star, quoi. Vraiment, ouais, ouais. C'est ça. J'étais allée visiter son village. J'ai oublié le nom du village, mais je m'en rappelle. Mais qui est décédé, et sa fille toujours vivante. D'ailleurs, il a écrit une musique trop belle pour sa fille qui s'appelle Lettre à ma fille. Enfin, ça doit être fou d'être elle et d'écouter ça. Enfin, je sais pas. Du coup, moi, parfois, j'avoue, je m'identifie à Idir en me disant « Ah, je voudrais laisser quelque chose à Yuva, donc mon enfant. » Voilà. Bon,
c'est
je m'étale un peu.
C'est bien, c'est bien.
Déjà, tu as fait un album pendant ta grossesse que tu as écrit, en fait, c'est ça?
Oui, ben, en fait, c'est un peu plus complexe, mais j'avais déjà le projet de sortir un album, oui, avant ma grossesse. Puis j'ai rencontré Oliver, je dis son prénom parce qu'on a fait quelques musiques ensemble dans le projet, qui est Foster. Le papa de... Voilà, Oliver Foster, qui est le papa de Yuva. Et on s'est rencontrés. En fait, je ne sais pas, j'imagine comme dans toute alchimie, ça accélère un peu les processus, je ne sais pas. Ça allait plus vite pour mon album. Enfin, Oliver, il m'a un peu soutenu, enfin, pas mal soutenu, en fait, sur ce projet. Là où moi, j'étais un peu plus relaxe, je prenais plus mon temps. Mais du coup, oui, alors après, donc, je suis tombée enceinte et on est venu ici parce qu'on vivait à Marseille avant. Et oui, c'est...
On n'a pas dit que tu habites à Aimoutier quand même. Hein
oui,
et c'est vrai.
Ah oui, c'est important. Bah, ouais, hein
sur le plateau, Aimoutier. Oui, c'est vrai, quand même, c'est marrant. Non, mais elle est marrante, notre histoire. Enfin, oui, on est arrivé donc, à Aimoutier. J'ai vécu du coup ma grossesse à Aimoutier. Et là, grosse introspection. Et hyper inspirée, bien sûr, la rivière, tout ça. Ouais, là, on entend bien, je pense, dans le projet que je parle de grossesse, quoi. La nausée, par exemple. Voilà. Ouais, j'ai tout fini pendant ma grossesse. C'était mon seul objectif, en fait, d'ailleurs. J'avais que ça à faire, donc c'était chouette. Ça, c'est vraiment... ouais. J'en garde un très bon souvenir de pouvoir finir d'avoir pu finir cet album en étant enceinte. C'est trop, trop cool.
On va se raccrocher de la rivière pour parler aussi de toutes ces tessitures que tu nous présentes. Il y a beaucoup de sonorités de la nature, un peu field recording, des oiseaux. Comment est-ce que tu as enregistré ça et c'est où que tu es allé l'enregistrer?
Eh bien oui, à Aimoutier, avec le microphone d'Oliver. Bon, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait beaucoup. En fait, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus dans la musique maintenant, de mettre une ambiance des bruits, des sons d'oiseaux, de nature et tout. Et c'est pas exceptionnel, mais j'assume. Hein, mais je trouve que c'est génial que tout le monde puisse... Enfin, qu'on se dise, bah, en fait, écouter de la musique, c'est aussi entendre le paysage... Et c'est souvent des mélodies que moi, que je fredonnais d'abord en faisant mes petites balades. Donc je me disais, bah, j'ai envie de garder cette ambiance-là dans le projet. Et c'est toujours plus agréable. Je ne sais pas, j'ai l'impression moi, que c'est plus agréable d'entendre une musique, parfois plus agréable, d'entendre une musique avec des sons de nature. C'est plus réaliste, plus poétique. C'est poétique aussi, mais en fait, c'est la vie, quoi. C'est ouais, le réel. J'aime bien. C'est un documentaire comme ça, quoi. Voilà.
Cet album, il est sorti sur un label qui s'appelle Knucklewiss.
Oui, c'est bon, tu l'as
ouais, je vais le dire comme ça. On peut le dire de plein de façons. Hein,
oui, c'est
parce que c'est du flamand. Enfin, ce nom-là, c'est flamand.
C'est hollandais.
D'accord, et ils sont hollandais.
Okay. Oui, oui, c'est hollandais.
Ça aurait pu être belge. Mais...
Oui, c'est vrai. Non, non, ils sont hollandais et ils sont basés à Amsterdam.
Et pourquoi tu sors ton album oui, sur bon. Un label de Hollande?
Non, mais c'est que en fait, le label il est géré par Marc et Claudia et ça fait longtemps qu'on est en contact et que sincèrement, elles aiment vraiment ma musique, mais depuis longtemps. Et donc, juste, on a tissé un lien comme ça, juste, on s'appelle, on s'écrit, et puis de fil en aiguille, on n'a vraiment rien forcé, vraiment, vraiment. Et donc, moi, je me suis dit, c'est naturel, allez, mais c'est vrai que ça paraît un peu... en même temps, c'est chouette parce que c'est international, donc du coup, ça permet que ma musique, elle puisse être écoutée ailleurs qu'en France. Mais ça s'est vraiment fait naturellement, vraiment, ça a été extrêmement fluide.
D'Hollande, au plateau des Mille Vaches, à la Kabylie, dans le cosmos, planétaire.
Oui, c'est ça. Et parfois, il ne faut pas faire des liens, essayer de faire des liens, parce que sinon, on évite... je ne sais pas, moi, des fois, je me dis, mais est-ce que ça a une logique? Si on essaye de tout faire en fonction de... il faut que ça soit logique, du coup, peut-être qu'on rate des choses. Donc là, maintenant, je me dis, OK. Comme tu dis, Hollande, Kabylie, Marseille et Moutier, qu'est-ce que ça veut dire finalement?
Et au final, c'est via ce label que je suis, je connais bien ce label, hein, je suis, il y a plein de trucs vraiment super. Knuckle-Wiss, je vais les plaire parce que personne ne réussira à écrire ce nom, surtout avec notre prononciation qui est un peu n'importe quoi, c'est K-N-E-K-E-L. H-U-I-S. On les trouve sur Bandcamp et c'est là que, du coup, c'est via un label hollandais que j'ai trouvé une chanteuse qui a Aimoutier.
Franco-algérienne.
Personne à la radio ne t'a même entendu de parler de toi.
Mais c'est fou.
Enfin, c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Ouais. Et c'est même pas un coup de cœur, je crois. C'est vraiment un coup de foudre. On est tombé amoureux de ta musique. On adore ta musique.
Oui.
Ta voix, elle est incroyable, elle est vraiment incroyable, c'est envoûtant, vraiment, on a tous adoré. D'habitude, c'est surtout moi qui tombe sur des trucs et qui les aime un peu dans mon coin, mais là, il y a eu vraiment une unanimité à la radio, on a vraiment adoré. Okay. Non, vraiment, on aime ta musique profondément.
Ouais. Ça me touche.
Merci, j'espère que les auditeurs seront aussi réceptifs que nous, mais j'en suis sûr, en fait, j'en suis sûr.
Sûr et certain, oui. Carrément.
Moi j'ai envie de savoir un peu si tu as des nouveaux projets en tête pour le futur.
Oui, plein.
Plein.
Oui, j'en ai. Il y a des lives qui vont arriver et tout. Bon, ça va être communiqué en temps et en heure sur les réseaux. Et sinon, oui, j'ai plein d'idées là. J'aimerais bien faire un album full piano par exemple. Il y a un compositeur que j'aime trop qui s'appelle Hugo Maillard qui compose des musiques comme ça au piano. J'aimerais bien peut-être collaborer, je sais pas. Là, j'ai commencé à. J'ai fait des prémices de musique en arabe en vrai. Là, j'aimerais bien assumer plus cette chose-là, même si je le parle pas régulièrement. J'ai envie quand même. De composer des sons en arabe avec un petit mélange piano et quelque chose d'un peu lancinant, mais enfin bon, ouais, c'est en cours de maturation, je dirais, parce que j'en fais un peu tous les jours, mais je voulais même me procurer un piano droit pour tester des choses. Bon, je vais sur le plateau, il y a plein d'opportunités de récupérer des choses. Donc, je vais faire ça.
Et tout à l'heure, tu parlais de réalisation audiovisuelle. Est-ce que tu aurais envie de faire des clips ou d'illustrer tes chansons d'une certaine manière ou pas spécialement?
Des clips, j'ai dû en faire deux. Mais j'ai du mal avec les clips, je crois. Ouais. Plus de la peinture, non, mais pour illustrer ma musique, ouais. Si moi j'ai envie de réaliser, tu veux dire?
Je sais pas, tout à l'heure tu parlais d'envie de réalisation, mais c'est aussi deux projets différents.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'en parlais hier ou ce matin, je sais plus, mais en fait j'ai découvert une écrivaine, alors j'ai oublié son nom, mais qui a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Hmar Lil, elle est tunisienne. Et en fait, alors vous allez voir le lien. En fait, elle est musicienne et elle a mis en scène une pièce de théâtre pour sa musique, et qui parle d'exil et tout ça. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est possible de créer des ponts comme ça, parce que j'ai toujours séparé les deux. Mais en effet, c'est en cours de réflexion, mais je pense que c'est pas encore très mûr. Mais oui, pourquoi pas en fait illustrer, que ma musique soit illustrée à travers un documentaire. En fait, c'est vrai que ce serait Ça serait super, ça serait sublime même, je dirais.
Et on peut retoucher un mot aussi sur la pochette, parce que tu nous parles des peintures, des dessins. Et la pochette, elle est d'ailleurs sur nos réseaux, sur Facebook et Instagram. Mm-hmm. Vous pouvez les regarder. Donc, c'est un petit mouton, c'est ça, tout délicat.
Un agneau.
Un agneau. Ouais. Racontez-nous l'histoire. C'est qui l'a fait pourquoi tu as choisi ce petit agneau?
Ça a été long, le choix de la pochette. C'était très, très dur. C'était pas facile. En fait... je voulais une peinture absolument, mais j'ai pas trouvé. Et puis, je sais pas, j'avais du mal à juste prendre une peinture pour faire une peinture. Enfin, voilà. Je voulais vraiment que ce projet-là, il ait du sens jusqu'au bout. Et en fait, une artiste que je connais de Marseille, Flora Sagne, qui est tatoueuse. En fait, il y a longtemps, je voulais... Enfin, elle dessine plein de petites... de petits animaux, et elle a dessiné cet agneau. Et j'ai tilté sur cet agneau parce que pour moi, Yuva, c'est mon petit agneau, quoi. C'est vraiment... voilà, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, je pensais à un agneau tout le temps. Genre, je
vois
mon petit agneau. Voilà, c'est mon petit agneau. C'est donc, en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas lui demander ce dessin pour la pochette, quoi. Et après, faire quelque chose, un travail graphique autour avec Jean-Baptiste Roussel, du coup, qui a fait tout le travail graphique autour, un peu enfantin, avec les carreaux et tout. Mais voilà, l'agneau, c'était vraiment pour représenter la naissance d'un nouveau-né, quoi. C'est... Voilà, quoi. C'est tout fragile, et comme cet album est aussi tout fragile, je sens quand même que je me... Enfin, je sais pas que je me fragilise, mais que je me donne dans... Enfin, oui, me donne à nu, me mets à nu, voilà. Pardon. Donc voilà, c'est l'agneau... Ça vient de là, la naissance.
Pour revenir à la naissance et aussi aux saisons, parce qu'il y a une métaphore aussi aux saisons, comment tu crées ces liens entre saisons, naissance et tes sentiments personnels et intimes?
Mais oui, en plus, on est arrivé à Imoutier, c'était l'hiver. Mais j'ai bien aimé en étant enceinte. En n'étant pas enceinte, c'est différent l'hiver, j'avoue. Parce que j'ai besoin de sociabiliser et tout. Mais quand j'étais enceinte, j'étais en mode introspection. Donc bon, ça m'allait très très bien, ce truc très... silencieux. En fait, en plus, Yuva, il est né en avril. Et je me rappelle, j'ai ce souvenir, j'arrive dans la maternité, c'est presque encore l'hiver, parce que les arbres, ils n'avaient pas de feuilles. Et en fait... 32 heures après l'accouchement, et je vais dans la chambre avec Oliver et Yuva, et en fait, on voit des bourgeons, quoi, sur les... Non, mais c'était vraiment magnifique. Donc, du début à la fin, il y avait des saisons. Et puis, non, mais je suis tombée enceinte en été, à Marseille. Il faisait très chaud. Oh, c'était horrible. Ah oui, la nausée, je l'ai écrit à ce moment-là, d'ailleurs.
Incompréhensible.
Non, mais vraiment, ah, ouais, voilà. La nausée, je l'ai écrit... voilà, non, mais oui, en fait, cet album, c'est vrai qu'il est très... teinté des saisons. Donc voilà, oui. L'été, il faisait très chaud. J'avais la nausée. L'hiver, j'étais dans un truc très... comme l'intro, d'ailleurs, que j'ai composé en hiver. Très, j'allais dire, religieux, quoi, presque. Et le printemps. Et en fait, j'avais hâte d'être au printemps et de voir mon bébé, d'avoir mon bébé dans mes bras. Je fantasmais et tout ça, quoi. C'était un peu... Voilà.
Parmi cet album, est-ce qu'il y a un morceau qui te touche plus qu'un autre, où il y a une histoire? Tout l'album, il y a une histoire forte derrière, hein, ouais. C'est une naissance. Hein. Mais est-ce qu'il y a un morceau qui t'interpelle le plus, qui te touche plus qu'un autre?
Mais oui, je dirais La Nuit d'Orage, vraiment. Parce que je ne pensais pas moi-même être capable de produire et composer ce genre de son. Enfin, ce son, je me souviens du jour où je l'ai chanté... dans mon micro, et croyais pas à mes yeux moi-même, j'ai même pleuré et tout, quoi. Mais vraiment, la plupart des sons, j'ai pleuré, en fait, en les enregistrant, hein. Et en fait, parfois, c'est des vraies larmes, c'est pas pour... La Nuit d'Orage, celui-là, vraiment, on le sent en plus dans la voix, hein, c'est qu'à la fin, vraiment, je pleure, quoi. Enfin, j'ai composé cet album pour lâcher mes larmes, et La Nuit d'Orage, ouais, vraiment, c'était un... C'est un morceau vraiment qui me tient énormément à cœur, puis que j'adore chanter.
Et nous, on connaît cet album-là, Les Dents des Larmes, mais pas tes créations précédentes. Comment tu décrirais ton évolution musicale?
Avant, c'était plus pop, trap. J'avais pas le souci de faire, de me mettre à nu, en fait, ou de faire quelque chose de très authentique ou intime. C'était plus dans l'objectif de séduire, je pense. Enfin, je veux dire, un public. Mais c'est quand même, c'était très, c'était quand même ma DA, quoi, ma direction artistique à moi. Mais du coup, je les aime bien, mais... Enfin, bon, c'était pas ça la question. Mais plus, c'était pop, trap, un peu. J'alimentais mon SoundCloud avec plein de petits sons que j'enregistre comme ça et j'aime bien juste les mettre, je les jette comme ça dans SoundCloud et après hop, j'en parle plus. Et ça a souvent été très pop, variété française beaucoup quand même. En fait, j'ai grandi avec la variété française aussi, hein, quand même, parce que ma mère, elle écoutait aussi beaucoup Nostalgie ou Chérie FM ou tout ça dans la cuisine. Et donc, toutes ces musiques-là, teintées de nostalgie aussi, du coup, et de mélancolie. J'ai un peu j'avais besoin, je pense, avant cet album d'aller dans ça, quoi, variété française un peu plus. Françoise Hardy par exemple, j'aimais beaucoup.
Ben oui, je tiens à retenir qu'on écoute Radio Vassivière, c'est Léo la nuit. J'ai une dernière question, après je laisse mes collègues, si vous avez une autre question, mais qu'est-ce que tu espères que nos auditeurs et nos auditrices retiennent récentes quand ils écoutent Léo la nuit, Les dons des larmes, parce qu'on a quand même rajouté deux de tes morceaux, de ton album sur la playlist des Radio Vassivière, et bientôt on va pouvoir écouter les concerts.
Oui.
Ah ouais, trop bien.
Oui, on a enregistré cet après-midi tout un concert. Là, on va écouter juste deux, trois extraits autour de l'interview. Mais on pourra écouter justement tout. C'est pas l'album, là, du coup. Il y a des morceaux qui sont dans l'album.
Tu nous as préparé.
En fait, il y a Nouri, c'est une composition que j'ai faite très récemment en arabe, que j'adore et que j'avais faite pour la compile d'une amie qui n'est pas sortie encore. Mais voilà, du coup, j'avais trop envie de le faire là, aujourd'hui, sur Radio Vassivière. Mais oui, et pour répondre à la première question, qu'est-ce que j'attends de... Bon, j'attends rien, en vrai, j'attends rien. Non, j'attends rien, franchement. Je suis déjà très touchée par les retours, en général. Les gens sont très, très... Enfin, ont compris la dimension mélancolique du projet, la douceur. Enfin, en fait, en général, la façon dont c'est décrit par les auditeurs, auditrices, c'est très juste. Et ça me touche, quoi. Je me dis, donc c'est que... Je sais pas, c'est que la communication est bonne. Non, mais qu'est-ce que j'attends ? Non, franchement, sincèrement, j'attends rien.
Non, et ce qui en ressent aussi, c'est une transparence, une sincérité, c'est juste ce que tu as dit, une mise à nu de ton cœur et de ton âme. Ça, c'est beau.
Merci beaucoup.
Moi, j'ai envie de savoir un peu, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, quand est-ce qu'on pourra te voir en concert ? Ici, le Limousin, on va dire, en gros, quoi.
Mais oui, c'est qu'il faudrait que je mette ça en place. Parce que pour le moment, il y a tout ce qui est en dehors du Limousin qui est en train de se mettre en place. Donc avec le label, les festivals et tout ça. Et ici, ce qui serait chouette... en fait, c'est facile. Je ne sais pas pourquoi je pensais...
C'est trop facile ici.
Oui. Non, mais dans le sens où justement, je me dis que c'est un truc que je peux le faire un peu spontanément. Je pensais à la Salamandre, à Emoutier, peut-être que pourquoi pas je le ferai là-bas. Mais en fait, sinon, on nous a proposé à tout le monde avec Oliver Foster, du coup, qui est aussi musicien. Et donc, lui aussi, il a composé un album là, récemment qui est quand même assez folk aussi. Donc, ça pourrait être chouette qu'on fasse un truc à tout le monde. Je me suis dit, pourquoi pas tout le monde. Mais j'ai pas... Enfin, il faudrait actionner. Mais je crois que c'est ça pourrait se faire, oui. Ou même, pourquoi pas, à l'atelier,
En tout cas, pour les 40 ans, les 40 heures des Radio Vassivière de cette année, parce qu'on va le faire cette année, hein, Fab.
Oui.
T'es officiellement invité.
Ah ouais, je suis trop touchée, merci, carrément. Trop chou.
Et on va essayer de pousser une salle à te faire jouer. Là. Nous, on veut te voir en concert.
Carrément.
Bah, à l'atelier, franchement, vous allez faire dans le festival, vous faites ici, à Vassivière ou...
Nous, on fait
à
la radio.
C'est un genre de marathon.
Voilà, exactement.
40 heures.
Ah, j'adore.
Non-stop.
Ah ouais, voilà. C'est trop bien.
Il y a des... Il y a des DJ de la radio qui viennent un peu mixer des disques. Cool. On peut parler en journée, le soir, on aime bien qu'il y ait des petits concerts.
Lire la poésie.
Voilà, ouais. Vous pouvez avoir un peu de tout. Quoi. C'est de la radio. Quoi.
Ouais. Mais il y a vraiment de quoi faire. Il y a plein d'artistes en fait, hein, dans le coin. Moi, je ne m'en rendais pas compte, mais il y a... Il y a de quoi faire. Là. J'ai découvert une artiste récemment. Enfin, je sais pas, j'ai envie d'en parler. Mais
oui.
Qui fait peut-être que vous connaissez, mais qui s'appelle Club Forêt. Non, mais c'est incroyable. Et je pense qu'il faut lui faire de la visibilité.
La suite. On va suivre le fil.
C'est des musiques pour enfants. C'est ouf. Je trouve ça trop bien composé. Et tout. C'est sur Bandcamp. Donc, voilà.
Ok. Ouais.
On va rappeler qu'Eléandre est à la technique. Ça va? On va bien? Ça roule? On va commencer à boucler notre entretien, notre interview. Je rappelle qu'on a fait un échange sensible, poétique avec Léo Lanui, autrice, compositrice franco-algérienne dont l'univers sonore poétique et délicat tisse des paysages intimes entre rêve et réalité. J'étais accompagnée par Jeanne. Merci Jeanne.
Oui, merci.
Merci à toi d'être venue en parler au micro de Radio Bassivière.
Par Fabien, merci Fab
avec
pour cette découverte musicale. Léandre à la technique, merci Léandre.
Oui, merci Léandre.
Nini Vidigas qui vous parle et puis Léonie, au plaisir, hein, toujours, oui, tu seras la bienvenue ici.
Léonie.
Non, Léonie, c'est une autre. Oui, parce qu'il y a une artiste qui s'appelle Léonie.
Ah, j'ai fait une.
Léo la nuit.
Léo la nuit, Leïla.
Bah, voilà, c'est un jeu de mots.
Oui, c'est clair.
Leïla, Léo la nuit.
Si on veut trouver ton album, si on tape Léo la nuit, Le don des larmes,
oui,
on trouve. Hein, on finit par en trouver. Oui.
Oui, carrément. Super. Oui.
Et sinon, écoutez, réécoutez cette émission et les conseils aussi sur radiovassivière.com.
Oui.
Exactement.
À très bientôt, à une prochaine. Merci.
Ciao.